9h, dans le bureau de par Jupiter.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais c'est encore une émission aujourd'hui compliquée, il y a beaucoup de nouveaux et...
Un montre-voir? Là, il y a Véron, Marina Chiche...
Voilà, bon, Hippolyte Girardot, mais...
Hippolyte Girardot, c'est une vedette, c'est pas pareil.
Et voilà, voilà, ça c'est
mais
vrai.
Mais t'as raison, non, pour les nouveaux... Moi non plus, je les aime pas trop,
et
les nouveaux.
Et voilà, on sent, c'est des gens qui croulent sous le poids de la responsabilité.
Ouais, ça doit être ça. Moi, je me rends pas compte ce que ça fait d'assister en vrai à une chronique de Guillaume Meurice.
Mais moi non plus, moi j'ai toujours connu ça, moi,
tu vois. Donc rien de mieux que les anciens.
Mais oui, nous on connaît l'esprit, Jupiter.
Bah oui, on est ouvert, nous on est woke.
Ouais. Ça veut dire quoi?
Qu'est-ce que vous manigancez?
On se demandait avec Alex, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de perdre l'esprit, Jupiter?
Oui, à force d'ouvrir comme ça l'équipe à des nouvelles personnes.
Est-ce qu'on n'assisterait pas à la libanisation de par Jupiter?
Oui.
Mais dites donc, ça va les fans de Zemmour?
Tout de suite les grands mots.
Il faudrait pas qu'on perde notre âme.
Voilà. Jupiter, c'est aussi une histoire à laquelle tout le monde ne peut pas s'intégrer comme ça.
Je parlerai même d'assimilation.
Une autre époque.
C'était l'époque où vous veniez au bureau tous les jours. Je m'en souviens un petit peu. Et puis après, il y a eu vos carrières, vos états d'âme. Et qui a dû garder les enfants? Qui? Qui a gardé cette entreprise debout contre vents et marées? Qui?
C'est toi.
Alors vous allez me faire le plaisir d'accueillir correctement les nouveaux.
Bien.
Et voilà, le grand remplacement.
Grand, très grand.
Bonjour la France Inter et bienvenue chez les petits soldats de la poilade. Voici la devise du jour, un problème sans solution est un problème sur lequel s'est penché Jean-Michel Blanquer. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Charline.
Votre classique est une œuvre jeunesse et au-delà. Son auteur, Béatrix Beck, fut la secrétaire d'André Gide, qui l'encouragea d'ailleurs à écrire. Elle reçut un prix Goncourt et en 1984, elle publie « L'enfant chat » que vous résumerez succinctement.
C'est vraiment des branleurs.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Avec vous, chaque jour, l'aventure est au coin de la rue.
Oh, c'est beau ce que vous dites. Alors aujourd'hui, pour les pitchouns, je vais tenter d'expliquer qu'est-ce que le communautarisme, avec des experts évidemment rencontrés sur le terrain.
C'est la conception de l'individu et de ses appartenances ethniques, culturelles et je sais pas quoi.
Ah, on y était presque. On y était presque. On va y arriver.
Et aujourd'hui, la Jupy Masterclass de cinéma est assurée par Eva Darlan. Bonjour Eva.
Bonjour Charline, bonjour les pauvres.
Oh, c'est tellement pas là, c'est ce que vous venez de dire. Vous avez beaucoup réfléchi au film que vous voulez partager avec les auditeurs. Résultat, vous avez choisi des films, les films de votre vie.
On ne sait que choisir.
C'est vrai qu'on y a l'embarras du choix.
Et pour vous accompagner, les fauchés, aujourd'hui, Alex Vizorek.
Mais oui, bonjour Charline Vanhoenacker. Laissez-moi vous présenter le reste de l'équipe, celle qui aime la langue et qui aime aussi la remettre en question. La fille cachée d'Hélène Carrère d'Encausse et d'un Sex Pistols, c'est Laëlia Véron.
Je ne suis pas sûre d'assumer cette filiation,
c'est
mais bonjour.
Tard. Bonjour, de quoi allons-nous parler?
On va parler d'analyse du discours, de vouvoiement et de tutoiement.
Et ben voilà. Quand elle parle, il ne faut surtout pas lui dire qu'elle pisse dans un violon, parce qu'elle, elle connaît le prix de l'instrument. C'est Marina Chiche, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Eh ben on va parler du petit frère des pauvres, du violon.
C'est pas vrai.
Enfin, pauvre du violon, quoi.
Et enfin, celui qui peut parler pendant des heures en regardant le ciel, et c'est le ciel qui à un moment finit par dire « Excusez-moi, j'ai pas tout compris. » C'est Hippolyte Girardot.
Ben, je vais faire court, voilà, oui, bonjour, bonjour. Mon truc s'appelle « Faisons un cauchemar ». Voilà, c'est un thème, ça.
Si, c'est clairement un thème.
C'est super clair, quoi.
On a déjà eu des présentations moins fluides.
Exactement.
Ajoutez à cela un journal qui dépote, des exercices qui capotent et un dessin pour le jackpot, vous obtenez une émission réalisée entre potes.
Oh là là.
Bien sûr. Ah, oui.
Sinon, il y avait compote.
Oui, mais je savais pas où mettre.
Ah, j'avais capote, oui.
J'avais présenté par Paul Potts.
Bien.
Au boulot, nous disent les pitchounes, effectivement. Eva Darlan est avec nous. Eva.
Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que je suis contente d'être là.
Mais nous aussi.
N'imaginez pas.
Vous êtes
la
première.
Vous faites partie. Vous faites partie des invités qui ont marqué l'histoire de cette émission et qui reviennent pour une Jupy Masterclass de cinéma. Alors vous êtes en tournée de signature en ce moment pour votre livre qui s'intitule « Les bruits du cœur » et qui est paru chez Calman Lévy. Alors le week-end prochain, il paraît que vous serez à Épinal.
Oui, dans le festival festival du rire aux larmes. Est-ce que vous y êtes allés tous? Non.
Oh, je connais pas.
C'est formidable, c'est génial. C'est
très, vous signez votre livre là, puis à Fécamp, et puis vous passez aussi par Roquebrune.
Bah, tout l'été, j'étais sur les routes et on a fait non pas de Dunkerque à Tamanrasset, mais de Dunkerque à Saint-Tropez, qui n'est pas Tamanrasset. Hein, rassurez-vous, rassurons-nous.
Pas de polémique.
Et donc, voilà, on continue la promo du livre qui, sur de la longueur.
Et voilà. Vous voulez l'adapter au théâtre, non?
Ah oui, ça y est, l'adaptation est faite. Oui, ouais. Oui, l'adaptation est faite et on est en train de construire cette pièce avec les acteurs et les producteurs.
Très bien. Et puis, parce que vous avez plein de projets, Eva Darlan, vous avez aussi commencé à jouer en tournée, c'est ça, un monologue sur l'homoparentalité?
Alors, c'est moi qui l'ai écrit, qui le met en scène, mais ce n'est pas moi qui le joue, puisque l'homoparentalité s'adresse plutôt, bien évidemment, est effective pour les deux sexes, mais s'adresse plutôt aux hommes qui ont plus de difficultés pour procréer. Si
ça s'appelle Homopater.
Voilà, Homopater. Donc on a commencé à le jouer en lecture. Et puis je prépare aussi la mise en scène d'un troisième
mais
projet.
C'est pas vrai.
Si tu veux, on a été un tout petit peu enfermés.
Oui.
Donc ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et voilà, il est sorti ça. Donc il y a une troisième pièce dont on est en train de préparer aussi avec les producteurs, qui est sur l'héritage.
Ça s'appelle Le Gigot, c'est ça?
Ça s'appelle Le Gigot, comme tout ce qui parle d'héritage.
Voilà. Donc, grâce à Eva, on va construire des nouveaux théâtres, parce que sinon, il n'y aura pas assez de théâtres pour jouer tout ce que écrit et fait Eva Darlan, qui est avec nous jusqu'à 18h. Et alors, le mercredi, c'est l'émission pour les Pitchounes, avec des chroniqueurs vraiment de haut vol, hein, vous l'aurez noté. En voici une qui est maîtresse de conférences à l'Université d'Orléans.
Oui, on n'a pas vérifié ça quand même. Elle s'est présentée comme ça, mais...
Elle vient s'encanailler avec nous, elle est linguiste et stylisticienne. Laëlia Véron, vous nous parlez comme jamais, tout de suite là.
Alors, je voulais vous parler du vouvoiement et du tutoiement, puisqu'en français, quand on s'adresse à une interlocutrice ou un interlocuteur, on peut employer soit le tu de proximité, de familiarité, soit le vous de politesse. Ça paraît simple, mais en réalité, c'est jamais aussi simple, c'est pour ça que je fais des chroniques. Vous voyez ou tutoyer, ça dépend de conventions qui peuvent être historiques, sociales. Par exemple, globalement, les enfants ne vous voient quasi plus leurs parents et ça montre un changement dans les rapports générationnels. Ça dépend de conventions qui peuvent être interpersonnelles. Par exemple, est-ce que vous tutoyez où vous voyez vos beaux-parents, ça dépend de vos relations, et ça dépend de conventions qui peuvent être médiatiques, par exemple dans une émission de France Inter, on peut se tutoyer hors plateau et se vouvoyer sur le plateau, et quelquefois au milieu de toutes ces conventions, on hésite et on passe de l'un à l'autre. J'avais envie de caser cet exemple-là. Mais vous voyez, au tutoyer, justement, ça n'est pas figé et ça se négocie de manière plus ou moins harmonieuse. Parce que si vous dites à quelqu'un au bout d'un moment, bon, ça va, on peut se tutoyer, et que la personne vous dit non, je préfère pas, et ben généralement, vous risquez de mal le prendre. Et j'ai un exemple de négociation pas très sereine. Quand Jean-Luc Mélenchon s'était offusqué du langage de Daniel Cohn-Bendit, qui le tutoyait et l'appelait par son prénom, Mélenchon lui avait dit, nous ne sommes pas amis. Vous le savez, vous avez un bel exemple ici d'un vous qui n'est pas vraiment un vous de politesse, mais un vous de distance. Et d'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit lui avait répondu en lui conseillant d'aller tutoyer Castro et aussi d'aller se revoir, hein, d'accord ? Donc voilà, négociation pas très sereine. Et dans les milieux professionnels, on s'adapte à ce qui est en place. Et je voulais vous parler d'une étude d'un sociologue, Alex Albert, maître de conférence à l'Université de Tours, dans un papier qui s'appelle « Tutoyer son chef ». Et ce papier-là porte sur le développement dans un univers professionnel d'entreprises qui se disent modernes, d'explicitation de la pratique du tutoiement comme un moyen de ne plus séparer les cadres et les exécutants. Mais comme d'habitude, ça n'est pas aussi simple. Et l'enquête montre que dans ces entreprises, déjà, tout le monde n'accède pas aussi facilement au tutoiement. Les hommes vont beaucoup plus tutoyer leur chef que les femmes. Et la fréquence du tutoiement est proportionnelle au niveau hiérarchique. En clair, même dans une boîte qui se dit super disruptive, il y a peu de chances que la femme de ménage tutoie le PDG. Et d'autre part, ce que l'enquête révèle, c'est que même s'il y a bien sûr des cadres de travail réellement amicaux, on se tutoie spontanément, dans d'autres situations, le tutoiement peut aussi être un outil de management plus qu'un marqueur d'égalité. Ça va avec les mots d'ordre d'autonomie qui peut se retourner contre les employés en mode « mais je suis pas ton responsable, c'est toi qui es le responsable, de me faire du chiffre ». Et finalement, le tutoiement peut brouiller les frontières entre l'engagement amical et les relations professionnelles. Ça peut avoir des effets sympas et positifs, mais aussi des effets effets négatifs, puisque bosser pour un pote, ça peut être très agréable, mais on peut aussi avoir du mal à l'envoyer bouler, à mettre des limites, surtout quand il y en a un qui est dans la position de payer et de dire à l'autre quand c'est son pote et quand c'est plus son pote. Voilà, donc le choix du vous et du tu, ça va bien plus loin qu'une simple question de grammaire. C'est une pratique, c'est ça qu'on appelle l'analyse de discours, de l'analyse interactionnelle. Une pratique qui est codifiée et qui est implicite, dont la portée change selon les contextes, avec laquelle on peut jongler et avec laquelle on peut aussi se planter comme
une finesse. Je ne me permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me vouvoyer. Ça va, ça
va. Laëlia Véron.
Ouais, tu sais qu'en Norvège, je te tutoie, hein, Charline.
Oui, bien sûr.
Tu sais qu'en Norvège, il a été décrété par la loi qu'on devait se tutoyer.
Ah
quand
bon
tu croises le Premier ministre dans la rue, tu le tutoies.
Ah, mais ça abolit la hiérarchie, ça, Laëlia, de tutoyer.
Alors, je n'étais pas au courant de cette histoire-là. Je sais que pendant la Révolution française, il y a notamment eu des lois, des mesures pour favoriser le tutoiement et pour, par exemple, s'appeler citoyen, citoyenne. Mais généralement, quand il n'y a pas ce marqueur de politesse ou d'hiérarchie-là, on va en créer d'autres, on va en retrouver d'autres. Ça prendra une autre forme, mais on va le retrouver.
Laëlia Véron, merci, notre linguiste et stylisticienne. Eh oui. Le tu abolit la hiérarchie, c'est pour ça que vous me vous voyez tous à l'antenne. Et qu'on écoute Curtis Mayfield, Move On Up sur France Inter, c'est par Jupiter.
Allez,
hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination.
Juliette Arnaud, calmez-vous sur cette chanson, parce qu'après le journal, ça va être votre tour.
Je j'espère être aussi le ministre des savoirs fondamentaux des élèves, le ministre de choix d'enseignement de spécialité des lycéens et le ministre du bien-être des personnels, bien sûr.
Le journal de presque 17h17.
T'as complètement déstabilisé Charlotte. Elle a au moins 6 chakras de refermés.
Ça va, toi, laisse-moi, te mêle pas de ça, sinon je vais te les refermer, tes chakras, ça va être vite fait.
Et on commence par les titres.
Yannick Jadot a remporté la primaire écologiste avec seulement 51%
et
des voix.
Et voilà, c'est fait, c'est lui, Yannick Jadot, qui va certainement devenir le prochain...
président de la République ?
Non.
Ah oui, non, vous rêvez un peu là, Alex.
Non, le prochain ministre de l'écologie de Emmanuel Macron, si vous me laissiez finir.
C'est vrai, je me suis emballée,
Oui.
Selon une étude publiée par le ministère de la Santé, plus de 5700 lits d'hôpitaux ont été supprimés en 2020.
Et oui, j'imagine que pour la prochaine grosse épidémie de gastro, le ministre de la Santé envisage de supprimer tout le papier toilette des hôpitaux.
Et des brèves.
Et des brèves, selon une étude publiée par moi-même, aucune brève ne sera voilà. supprimée dans ce journal.
Un journal sous le signe de la fraîcheur.
Bien évidemment. Commençons par la politique.
Oui, pour Sarkozy, Zemmour est, je cite, le symptôme du vide du débat politique.
Je ne sais pas si on mesure, mais on vit quand même dans une époque où c'est Sarkozy qui se fait l'arbitre de la vacuité ou non des débats politiques.
Éric Zemmour qui, hier, a assisté au Parc des Princes, au match entre le PSG et Manchester City, il s'est fait filmer en train de célébrer le goal de Messi.
Et oui, Éric Zemmour qui devient subitement supporter d'un club détenu par le Qatar, un pays musulman où le trois quarts des joueurs ne sont pas français. Vous allez voir, il est tellement opportuniste que la prochaine fois, il va se filmer en train de fêter l'Aïd.
Emmanuel Macron, lui, a annoncé que les consultations de psychologues seront remboursées sur prescription médicale à partir de 2022.
J'en connais un qui est en train de préparer sa réélection.
Vous dites ça dans quel sens ?
On s'en soucie, les réélus, il nous faudra l'aide d'un professionnel. Il le sait.
Éric Piolle, oui. Le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, comparaîtra le 1er mars devant le tribunal correctionnel de Valence pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public.
Coup dur pour les Verts qui ont choisi Yannick Jadot comme candidat à la présidentielle, alors que clairement, celui-ci a beaucoup plus le bagage pour accéder au poste. Éric Piolle, malheureusement.
À l'international, maintenant, oui. Suite au Brexit, le Royaume-Uni connaît une pénurie d'essence.
Eh oui, visiblement, les Anglais, ils ont un gros problème avec leurs importations et quand même, ils vont réussir à importer les gilets jaunes chez eux. Ça, c'est chapeau.
Une page environnement, oui. Car le Mont Blanc a été mesuré à 4807,8 mètres voilà. Et a donc perdu 92 cm en 4 ans.
Et à ce rythme-là, dans 15 ans, Gérard Larcher pourra le monter à vélo, le Mont Blanc.
Fiscalité maintenant. Marseille veut surtaxer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Mauvaise nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon.
Oui. Et puis au cinéma, initialement prévu en avril 2020, la sortie du 25e volet de la saga James Bond, c'est
oui,
ça
oui.
Hein,
je ne l'avais pas mis parce que ça aidait dans la blague.
Ah, ça ne veut rien dire.
Non, mais l'important, c'est de faire confiance à l'autre.
Bah ouais, mais ça ne veut rien dire. Bon, je vais vous le faire.
Oui,
La sortie du 25e volet de la saga Mourir peut attendre.
Non, c'est la pas saga une virgule Mourir peut attendre. Et là, je vous disais, oui, Michel Drucker, il est formidable.
Et là, je répondais... Pardon ?
Ben oui, ah oui. Peut attendre, c'est le biopic de Michel.
Ah, ouais. Ça aurait été bien, ça aurait été
bien.
Eh
ben non, mais donne l'âge de... Mais vous n'écrivez pas la réponse. Mais les gens ne savent pas que c'est James
c'est
Bond.
C'est beaucoup plus drôle comme ça en même temps.
Oui, je suis
les
d'accord.
Gens, Mourir des... peut attendre, non, ça peut pas être le titre d'un Maggie quand même.
Bah non, mais je sais pas si ma maman qui nous écoute, elle sait que c'est James Bond.
Votre mère a beaucoup plus d'humour que vous et vous le savez très bien.
Allez, les brèves.
Les brèves, ça je le fais tout seul, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Entre les deux, vous direz, et la dernière. Lot-et-Garonne. Il percute la barrière du passage à niveau ouverte. Il s'agit de la première personne au monde à littéralement enfoncer une porte ouverte. Allez-y.
Et la dernière.
Très bien, merci Charline. Lausanne, 2 points. Je sens qu'elle passe à la trappe, vous n'êtes plus concentré.
Si, elle était bien celle des portes.
Lausanne, 2 points. Il manifeste pour avoir le droit de manifester. On dit les Belges, les Belges, mais franchement, les Suisses.
Allez, vous ne venez pas assez souvent de
mais
cette
oui,
émission.
On n'a plus les.
Moi, je fais le journal avec Guillaume Meurice quasiment tous les jours. Et voilà, je perds mes repères.
Mais, voilà, mais bien sûr, moi, il a été grand remplacé, tout simplement.
C'est comme ça quand on a un deuxième bureau et un premier mari.
C'est vrai, oui.
Après, on se trompe.
Hein, voilà,
c'est ça.
C'est bien, ça a donné l'occasion à Alex de citer Maggie.
Très bien. Allez, parce que c'est des choses pour les pitchouns quand même, hein, oui. Faudrait pas l'oublier.
Maggie,
et justement, les petits et les grands pitchouns vont y trouver leur compte, car le roman que vous proposez, Juliette, est intitulé L'enfant chat. Il est signé Béatrix Beck.
Et cette écrivaine est née en Suisse, d'un père belge et d'une mère irlandaise. Le papa belge lui choisit son prénom, qui n'est ni Béatrice ni Béatrix. Enfin, si, ça s'écrit de la sorte, Béatrix. Mais lui voulait qu'on prononce Béatrix comme perdri. Donc, on va l'appeler, comme il voulait, Béatrice. Bien que Béatrice ait grandi dans les Yvelines à l'âge adulte, elle en a bavé pour obtenir la nationalité française. Elle a épousé en 1936 un jeune homme juif né en Pologne et tous deux sont communistes. Sur la forme, Béatrice n'entendait pas se confiner dans le conventionnel non plus. À ce sujet, elle écrit « Je violerai la langue française pour lui engendrer des bâtards inouïs. » Mais, dites donc, est-ce que totalement fortuitement, j'aurais pas mis la main sur l'écrivaine préférée de Monsieur Zemmour ? Que voulait me dire le dieu hasard ? Je ne sais pas, et puis comme le dit Béatrice, je ne crois pas à ce dieu-là. Cependant, ce n'est évidemment pas la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre. Je l'ai choisi parce qu'il était une fois, dans l'enfant chat, une dame d'un âge certain, Alex, vous et moi sommes en terre familière... Et là, la dame d'âge certain...
Je la vous vois. On ne dit pas Alex, on dit Allais. Il ne veut pas qu'on prononce le S.
Alphonse. Donc, la dame d'âge certain vit dans un petit village à la campagne, toute seule, et elle accueille chez elle une chatonne. Et si vous êtes en train de vous dire « Ah là là, encore une femme qui déplace ses frustrations amoureuses et familiales sur une bête », je vais éviter d'envisager de vous griffer à mort en crachant dans vos plaies. J'ai acquis une phénoménale imperturbabilité désormais et je vais laisser Béatrice vous répondre. Deux points, ouvrez les guillemets. On dit de la passion pour un animal que c'est compensatoire, mais tout est compensatoire. On a des enfants comme remède contre la condition mortelle et des amis faute d'absolu. Est-ce que vous avez bien noté les baumes ? C'est ça qu'il faut répondre à vos parents quand ils abusent. On arrête avec « j'ai pas demandé à naître ». Trop vu, trop porté, on n'en peut plus. Mais, maman, je ne suis pas un remède contre ta condition mortelle. Salut ! Et puis, je vais ajouter une chose. Cet animal-là, cette chatonne, est spécifique. Même si, d'abord, elle fait des trucs de chatonne moyenne, des trucs qui t'attachent, et je cite encore l'écrivaine... Elle, la chatonne, trouve le moyen de faire le gros dos malgré sa taille infime, hérisson angora, un chardon soyeux, dort pelotonné contre ma tête, adore être avec moi-même, quand levée je n'y suis plus, aime beaucoup être ailleurs, aime beaucoup être. Et puis une nuit terrible, orage, avec des coups de tonnerre très rapprochés, la chatonne a le poil hérissé et là, la chatonne dit peur. Oui, vous avez bien entendu les adultes, la chatonne a parlé, elle a dit un mot, elle a dit peur. Les enfants, eux, savent bien que les animaux parlent, mais nous, nous avons oublié. Et c'est pour ça qu'on mange des civets de lapin. Et c'est ainsi que l'enfant chat bascule dans le merveilleux sans quitter le plancher des vaches. Le merveilleux, hein, pas le fantastique. Ici, on n'est pas chez Marvel. Disons qu'on est dans une campagne qui serait pas très éloignée de celle où vit Alice avant de dégringoler au pays des merveilles où les chats et les lapins causent sous LSD. Disons aussi que ça te fait plus l'effet, cette nuit d'orage, du moment où César le singe dit dans le film La planète des singes, les origines, non ! Sauf que voilà, maintenant la dame a une chatonne qui cause, elle a dit peur, donc elle pourrait dire d'autres choses, ce qui est chouette, mais vous en conviendrez, pourrait avoir des conséquences pas forcément faciles sur le plan de la vie de tous les jours. Et justement, la semaine prochaine, merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud.
Pourquoi vous utilisez le mot chatonne alors que je pense qu'on aurait beaucoup plus ric
Alex, voilà. vous qui avez beaucoup regardé Maggie, vous auriez plus ri si j'avais effectivement parlé de la chatte.
Et oui.
Je dirais la chatonne.
Voilà. Bon.
Et donc c'est Béatrice.
Oui, oui, non, mais pour de vrai, j'ai entendu plein de spécialistes, j'ai écouté des conférences sur Béatrice Beck et ils disent Béatrice Beck.
D'accord, Béatrice.
Ils bien. Respectent ce que voulait son papa.
Ok. Ça va, Evax Darlan, tout va bien.
Non, c'est Alec, le pompon.
Bien sûr. Et va vous retrouver, ça va, vous retrouver l'ambiance, tout ça. Vous êtes
non, non, mais moi j'ai été douchée dans le bureau tout à l'heure. Je suis arrivée, je croyais arriver dans une fiesta absolument incroyable, tout le monde à poil.
Et dites aux auditeurs qu'on travaille.
Eh bien, c'est un silence de mort. Personne m'a regardé, personne ne m'a adressé la parole.
Eh bien, pendant toute cette heure-là, Eva, j'écrivais cette blague sur James Bond. Et c'était un échec.
Les éditeurs doivent savoir que nous sommes studieux pour leur préparer la plus belle émission qui soit. Et voici celle qui n'est pas venue seule car elle est venue accompagnée de son violon, n'est-ce pas ?
Mais oui, son violon qu'elle appelle André Rieu. Comme ça, si elle fait une fausse note, elle dit « bah c'est la faute d'André Rieu ».
C'est Marie Lachiche.
Bah, je suis ravie d'être avec, à nouveau avec vous. C'est un accueil assez impressionnant aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question envoyée par un pitchoun de la JP Class, le petit Guillaume M de Chenov en Côte d'Or, qui me demande quelle est la différence entre un violon et un alto. Ah,
c'est une bonne question
ouais, parce que c'est vrai que le violon et l'alto se ressemblent. Il y a un sacré air de famille. Alors quelle famille d'ailleurs ? C'est des instruments, on dit.
À cordes.
Oh, mais ils sont forts aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est Pierre. Dans Pierre et le Loup, c'est Pierre.
Voilà.
Alors, presque.
Bon, oh, alors, cordes frottées, en tout cas, cordes. Alors, une des premières différences, bah, c'est la taille. Alors, on a beau dire que la taille ne compte pas, mais c'est pas toujours vrai. L'alto, c'est un peu le grand frère du violon, un grand frère un peu pâteau. Alors, la longueur, il fait 40 cm de son corps, hein. Et le violon, c'est 35,5 cm. Donc, ça fait une différence. Les proportions sont pas toujours standardisées à l'alto. Donc, vous avez entre 38 et 43 cm. Bon, je vous laisse choisir. Plus grand, c'est un peu de la torture à porter sur l'épaule. L'archet d'alto est aussi plus lourd. 70 grammes versus 60 grammes au violon, et ça, à manier dans la main, ça fait une sacrée différence. Alors, les cordes sont aussi plus épaisses, plus robustes, et surtout, l'alto est accordé une quinte plus bas que le violon. Alors, interrogation, vous l'avez vu venir, celle-là. Les cordes du violon, on se souvient, la corde la plus grave, c'était la corde de...
Sol. C'est le sol.
Mais voilà, mais ça y est, ils ont bossé. Donc, sol, ré, la, mi... Ça, c'est le violon. Et à l'alto, on a une corde encore plus grave. C'est la corde de do. Do, sol, ré, la. Vous voyez, on a trois cordes communes, sol, ré, la, mais on a la corde de do. Et ça, ça fait toute la différence. Alors, avec cette sonorité plus grave, le rôle de l'alto a souvent été de porter les voix intermédiaires, le lien entre le violon et le violoncelle. Alors ça lui donne un rôle un peu de remplissage de bouche-trou. Bah oui, il faut le dire. Et c'est vrai que longtemps, il n'y avait pas de classe d'alto à proprement parler. On récupérait des violonistes qui ramaient un peu pour remplir les... Bah oui, c'est comme ça. Du coup, c'était des victimes idéales.
C'est un peu l'Europe 1 de...
Et ben, j'avais envie de dire, c'est un peu, du coup, les boucs émissaires de l'orchestre, donc bah, les Belges de la musique classique.
Cette comparaison est beaucoup mieux.
Alors du coup, il y a plein de blagues du genre. Quel est le point commun entre un solo d'alto et une bombe ? Au moment où vous l'entendez, c'est déjà trop tard. Quelle est la différence entre un alto et un trampoline ? Pour un trampoline, on prend la peine d'enlever ses chaussures avant de sauter dessus. Voilà, bon, je vous la fais courte. Mais rassurez-vous, attendez. Les temps ont changé. Loin de moi ces préjugés et discriminations aussi gratuites qu'insupportables. Je suis une violiniste déconstruite. Ça fait longtemps que j'ai arrêté les belles d'alto. Hein. Et en plus, c'est pas si facile de passer du violon à l'alto. Ça demande un ajustement. Les cordes sont vraiment épaisses. Les écarts de la main gauche plus larges. Et pour produire le son, l'action de l'archet est beaucoup plus laborieuse. Il faut beaucoup plus de poids.
Démonstration.
Vraiment rentrer dans la corde. Bon, alors le répertoire, au fil des siècles, il s'est développé. Au XXe siècle, il y a eu des virtuoses de l'alto, donc évidemment, je dément tout ce que j'ai dit avant. De nos jours, il y en a des brillantissimes qui ont peur de rien. Ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui, c'est un extrait de la symphonie concertante de Mozart. Donc là, on était déjà à la fin du XVIIIe siècle. Et Mozart fait rivaliser l'alto et le violon, autant de vitalité et de virtuosité. On écoute tout de suite.
Thank you.
C'était le presto final de la symphonie concertante de Mozart par Itzhak Perlman et Pinchas Zukerman. Alors, je vous recommande l'œuvre en entier. Le deuxième mouvement est à tomber par terre. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, une petite précision. Alors, oui, Guillaume Meurice est bien né à Chenôve en Côte d'Or, je n'ai pas menti. Par contre, quand je vous disais que j'avais arrêté avec les blagues d'alto, ben en fait, c'est pas totalement vrai. D'ailleurs, voici ma préférée. Vous savez pourquoi les blagues d'alto sont courtes? Non. Pour que les violonistes les comprennent.
Ah, oh, c'est mignon.
Et on peut vous voir en vidéo, bien sûr, car vous avez amené un alto et un violon dans ce studio. Merci Marina Chiche. Pour prolonger l'expérience, j'invite les auditeurs à consulter votre newsletter musicale. Vous pouvez vous inscrire sur marina-chiche.com. Et alors posez vos questions comme Guillaume l'a fait sur la musique classique et Marina pourra répondre dans ses prochaines chroniques. Posez les questions à parjupiter@radiofrance.com.
C'est le même mail que pour les messages d'insultes. C'est pas compliqué.
Traitez-les d'altistes.
On a donc entendu Marina Chiche, Juliette Arnaud, Laëlie Aveyron. Il nous reste encore le cinéma français en la personne d'Hippolyte Girardot et d'Eva Darlan. Mais avant ça, celui dans la campagne d'école.
Ah oui.
Depuis qu'il a fait la couverture de Besançon Match, en train de nager nu dans le Doubs, dans les bras de la Madeleine Proust, c'est Guillaume Meurice.
C'était une paparazzade, oui. Je m'expliquerai plus tard. Alors, les pitchounes, concentrez-vous aujourd'hui. Je vais vous parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la personne qui est politiquement à gauche d'Éric Zemmour. Eh oui, les pitchounes, la vie est pleine de surprises. Et Marine Le Pen est pleine de seum. Mais elle ne va pas se laisser faire. Non, 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 non. Elle veut lancer un grand référendum sur l'immigration. Oh, la belle idée, les pitchounes! Ça vous promet de belles discussions avec votre tonton CNews, comme vous l'appelez si bien, hein, qui vous a offert à Noël le dernier Tchoupif et le djihad. Dans ce référendum, elle propose une bien belle idée. Interdire le communautarisme. Mais qu'est-ce que le communautarisme? On ne sait pas. Et notre prof de français, Laëlia Véron, ne nous l'a pas expliqué. Sans doute parce que Laëlia est un prénom arabe, je le rappelle, qui signifie destruction des valeurs de la France ou apocalypse version couscous.
C'est un prénom corse, et... Guillaume.
Oui, j'ai peut-être déconné. D'accord. Enchaînons. Ne vous inquiétez pas. Les pitchounes, tonton Guitou, français de souche depuis même avant l'invention de la souche, va tout vous expliquer en allant voir des experts rencontrés ce matin dans la rue. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le meilleur d'entre eux. On va commencer par Roger.
Ça fait 40 ans qu'on a tout laissé aller, je te l'ai dit 50 fois.
Bah oui, je sais bien, Roger.
Ça fait 40 ans, depuis l'ordure de Mitterrand.
Oui, la base.
Moi, j'y crevé parce qu'il est encore président, parce que les gens sont tellement cons.
Simple, basique, hein, Roger. C'est le Orelsan du commentaire politique. Ça fait 40 ans, les gens sont cons, c'est la faute à Mitterrand. Pas de surprise. Pas de surprise, mais Roger, il peut quand même être surprenant dans l'analyse quand on lui parle de Marine Le Pen.
Bah, elle est dans les pays immigrés, elle. Et puis après, on sera tranquille, qu'elle fasse sa gueule. De toute façon, elle ne passera pas.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, dans les quartiers, dans les banlieues?
Il y a un Algérien.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Non, parce qu'il y a un Algérien à côté.
Il y a un Algérien à côté. Et oui, parce qu'on était, on était sur le marché. On était à côté d'un vendeur algérien, en fait, qui nous écoutait. Donc Roger, il a baissé d'un ton, comme on dit dans le jargon, parce qu'il est plutôt de la communauté de ceux qui n'assument pas trop des masses. Alors bon, on est resté là. Mais c'est pas grave, car des analystes sur le terrain, il y en a plein, vous le savez, les pitchounes. Alors, c'est vrai, quand on parle communautarisme, on parle directement d'immigration, et ce monsieur est plutôt pour.
Bah, moi, je dis pour, mais en même temps, quand tu respectes quelqu'un, c'est comme un chien. Il y a des chiens, le langage des chiens, c'est la main comme ça en bas, c'est pas la main en haut. Quand tu mets la main en haut, il a peur, il veut essayer de te mordre. Mais si tu mets la main en bas, c'est-à-dire que tu le respectes, le mec, il a une autre vision des choses, il a une autre approche des choses.
Donc il faut faire avec les immigrés comme avec les chiens ?
Exactement.
Alors, les pitchounes, bah démerdez-vous avec ça, j'ai envie de vous dire. Vous savez, des fois, j'ai pas le niveau moi-même de l'analyse que j'entends. Faut être humble. Vous n'êtes pas sur France Culture, rassurez-vous, ne paniquez pas. On est une équipe, on continue. Qu'est-ce que le communautarisme ?
C'est un mélange de tout. C'est le résultat de 30 ou 40 années de mélange ethnique, d'héritage migratoire.
Mais alors c'est bien ou c'est pas bien?
Bah non, c'est pas bien, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect, il y a un mélange de sortes de comportements qui vont nulle part.
Des sortes de comportements qui vont nulle part, les pitchounes. Contrairement à ce raisonnement, on sent bien que ce raisonnement, il ne va pas du tout nulle part. Vous le sentez maintenant avec l'expérience, les pitchounes? Parce que comment on fait pour régler le problème?
C'est renvoyer les étrangers dans leur pays, mais le problème, il faut savoir à quel niveau de la transmission de la nationalité française, est-ce qu'on va les considérer? Alors comment on fait?
Faudrait faire un questionnaire pour savoir qui est plus français que qui.
C'est compliqué.
Vous êtes français?
Non monsieur, moi je suis immigré. Et fils d'immigrés, et fiers.
Ah bah merde alors, les pitchounes. Encore un immigré qui est venu voler notre racisme. Il y en a de plus en plus, là, tous les jours. On dit que l'intégration, elle fonctionne mal, mais moi je trouve qu'ils prennent vachement les codes de notre pays. Rapidement, c'est bien. Ils venaient d'où?
Portugal.
Ah ouais. Est-ce qu'on peut parler de communauté portugaise?
Oui. Bah on peut parler de beaucoup de communautés.
Ah bah voilà alors, ouais. Donc stop aux communautés, sauf les Portugais.
Non, tout ce qui est européen. Voilà, c'est surtout ce qui est malheureusement la partie africaine, on sait très bien ce que ça donne. Hein.
Mais par exemple, les gens originaires du Maghreb qui se sont battus pour la France pendant les guerres mondiales.
Donc là, c'est oui, là on tourne la question autrement. Là.
Oui, j'ai l'impression qu'on tourne la question vachement autrement, les pitchounes, parce qu'à cette époque-là, on ne demandait pas à Mohamed de changer le prénom ni de manger du jambon. On lui demandait de devenir un steak tartare pour défendre un pays qui insultera ses petits-fils quelques années plus tard. Voilà, là on retrouve notre communauté des gens qui n'assument pas. Tiens, bah à propos, qui c'est qui est revenu quelques minutes après me voir pour finir de me dire ce qu'il avait à dire? Parce que je sentais bien qu'il n'avait pas terminé. Eh bah c'est Roger, bien sûr.
Non, mais vous savez, quand on envoie chez eux, puis c'est tout. On n'a qu'à descendre l'armée et puis les mitrailleuses. Il n'y a qu'une solution.
Bah dis donc, Roger, vous êtes plus virulent que quand il y avait le vendeur algérien à côté.
Hein. Ah non, mais écoute. Non, mais il y en a des bons, c'est comme les Français, il y a des cons partout.
Il y a des cons partout, et c'est oui. La communauté des cons, comme on dit, qui s'agrandit de jour en jour, les pitchounes. On pense à La République En Marche, bien évidemment, en ce moment, qui se vante hein, de réduire les visas voilà, pour faire pareil, pour faire comme l'extrême droite, et qui ont rejoint depuis longtemps la grande communauté des xénophobes.
Guillaume Meurice, voilà. Ami de la nuance, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci Guillaume. Et beaucoup moins tordu que ce qu'on vient d'entendre, les exercices, bien sûr.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est moi qui commence. Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Bon, sauf si, évidemment, il fait une alliance avec Anne Hidalgo ou avec Arnaud Montebourg ou avec Xavier Bertrand.
Oui, on a compris.
Voilà, vous avez compris. Hein, oui, j'avais bien vu que vous aviez compris parce que c'était écrit sur ma feuille juste en dessous. Mais on a du mal à le situer, ce Yannick Jadot, parmi les noms suivants. Lequel est aussi candidat à l'écologie? A. Nathalie Loiseau. Parce que c'est rigolo. B. Ségolène Royal, alias l'éolienne du Poitou. C. Hugo Clément, dont le calendrier en papier recyclé est toujours disponible dans tous les Natures et Découvertes. Et D. Antoine Vechter.
Attendez, celui de 1988 ou celui de cette année?
Je crois que c'est le même.
Hein. Ah bon?
On va vérifier.
Ouais, vérifions quand même. Mais allez, pendant ce temps,
dans les réponses.
Je fais un autre exercice. Sur les 4 dernières années, le Mont Blanc s'est érodé. Il a perdu 1 mètre de hauteur. Oui. Il culmine aujourd'hui à 4807,81 mètres. Et alors, à ce rythme, peux-tu nous dire dans combien d'années le Mont Blanc aura disparu?
Pas mal. Ça.
Petit A. À raison d'un mètre tous les 4 ans, il disparaîtra dans 19232 ans, soit en 21 253. On est large pour les vacances au ski. Petit B, le Mont Blanc ne disparaîtra pas, car Yannick Jadot va devenir président de la République. Petit C, le Mont Blanc ne disparaîtra pas, mais en tant que mâle blanc, il sera tout simplement déconstruit. Et petit D, il ne disparaîtra jamais, car Macron va lancer un grand Chamonix de l'écologie, intitulé « Make the Mont Blanc Great Again » sous le hashtag « Enlargure Mont Blanc ».
Cette semaine, lors d'une élection sénatoriale partielle, Ségolène Royal n'a reçu que 11 voix sur les 534 possibles, 2%. Alors les pitchounes, que représentent également 2%? Réponse A, 2% c'est pile la probabilité de l'avoir au second tour de la présidentielle. Réponse B, 2% c'est le pourcentage de temps d'antenne de BFM TV qui n'est pas consacré à Éric Zemmour. Réponse C, 2% c'est le taux d'alcool dans le vin chaud selon la Vanhoenacker Academy. Oh. Oh, réponse D, 2% c'est le temps de présence d'Alex Vizorek dans Par Jupiter.
Moi j'ai la réponse, ouais. Je dis ça.
Plusieurs réponses en fait.
Mais c'est les deux meilleurs pourcents.
Alors, ce qui nous attend à présent est forcément surprenant, Alex.
Oui, et il sera sans doute surpris même lui-même quand il va le dire. J'allais c'est Hippolyte Girardot.
J'ai commencé à le dire, je me suis dit, ah bon? Bon, avouez-le quand même, on y croyait. Enfin, moi, j'y croyais, en tout cas. Je me disais, quand le confinement est devenu quasiment mondial, qu'on a recommencé à entendre des oiseaux dans les villes, à remarquer l'herbe qui repoussait sur les trottoirs, qu'on a vu des antilopes se promener dans les centres commerciaux, dans les pays à antilopes, certes, quand le taux de pollution a baissé drastiquement au point que courir en ville n'exposait plus à une toux prolongée, que le ciel n'était plus barré de traces de kérosène brûlé, et ben ouais, on y a cru. Ce virus flottant dans l'air qui nous enfermait, c'était le châtiment, la cloche de l'apocalypse, la fin d'un monde, mais aussi, on le savait, le début d'un autre, on y a cru. On a entendu des discours, des repentances, des promesses, des envolées lyriques, on a même lu des livres écrits dans des cabanons en Normandie prônant la vie simple, et là, on y a presque cru. On était prêts à être des parents exemplaires, faisant l'école et la cantine, des amants exemplaires, prêts à forniquer en Skype, des chroniqueurs tout aussi exemplaires, prêts à passer des heures à se coordonner en Zoom pour faire de la radio. On voulait être des commerçants, des consommateurs et des commerçants responsables, mangeant végétarien à 200 mètres de chez soi, des cuisiniers du dimanche toute la semaine. On y croyait à penser comme ça. On savait qu'on avait changé, qu'on n'était plus les mêmes. Ah, on écoutait de la musique chill, genre Brahms, Sibelius ou Boudabar, ou alors des chansons de circonstance, comme à nos héros du quotidien, de Soprano, ou Résiste, mais pas dans la version d'Alain René, ou encore du très littéral comme Don't Stand Too Close to Me de Police, qui portait cette fois opportunément son nom. Oui, on y a cru, secrètement, on y a cru. Comme on croit les rêves, comme on croit les cauchemars. Ouais, putain, comme cette nuit où vous avez beaucoup, beaucoup trop de bagages dans tous les sens. On ne s'en sort pas. Et vous devez les passer sur le tapis de contrôle et bien sûr, vous êtes recalé à cause du poids et qu'en plus, vous avez complètement oublié que vous devez aller chercher la fille d'une copine à l'école et finalement, vous avez laissé trois valises. Mais pourquoi? Mais quelle idée, ces valises? Dans ces rêves, tout est absurde et tout a un sens. Et donc, alors stupide, vous emportez les deux valises qui vous restent dans un autre aéroport alors que vous savez très bien que vous n'êtes pas enregistré. Et là, vous tombez dans un embouteillage de 400 taxis alors qu'un lion traverse le passage piéton. Et là, vous comprenez que vous êtes à Conakry, capitale de la Guinée. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez être à Blaise Dagne, à Dakar! Et que vous êtes en train, en fond du monde, de vous réveiller! De vous réveiller! Ça n'était qu'un songe. Voilà, pareil. C'est idem. Ici, on se réveille. Mais la seule différence, c'est qu'on retourne dans un cauchemar qui continue. Il ne s'est rien passé, en fait. On fait comme si de rien n'était, c'est ça? On continue le greenwashing, les journaux libres qui meurent et les blagues à la con. On retrouve les mêmes têtes qu'il y a 4 ans pour ne surtout pas changer le monde. Les cartables des écoliers sont toujours aussi lourds et les débats toujours aussi chiants. Ouais, ouais, bah on n'a qu'à danser, alors on danse. Je me souviens d'un truc. Puisqu'on parle de cinéma un jour, en 90, un personnage de film a dit « On n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça c'est pire que tout. » Eh ben en 2020, je suis pas sûr qu'être amoureux soit le pire. Pas sûr du tout. Allez, bon mercredi à tous, les pitchounes.
Hippolyte Girardot, dans sa chronique, ma minute optimiste. Merci Hippolyte. Dans Par Jupiter, vous écoutez France Inter. À venir, Eva Darlan et les films de sa vie. Elle a eu l'embarras du choix. Peut-être on en a jusqu'à 19h. Préparez-vous, on ne sait pas. En attendant, Feu Chatterton chante Compagnon.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute, tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter, j'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter, mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon, plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne. Oh, c'est... mauvaise. Quand on joue du chien à poil dire, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ai bien pas au conseil pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
Allez-y, Guillaume Meurice, puisque tu avais pris l'alto de Marina Chiche dans le studio.
Ça donc.
Les débuts de Guillaume Meurice sur France Inter à l'alto. Je n'en reviens pas. Et oui, tout ça sur Feu Chatterton qui chante Compagnon. La Venez vous asseoir, Guillaume. Arrêtez de jouer avec les violons. La Jupie Masterclass du jour. Attention, c'est une Jupie super classe. Aujourd'hui, elle vous est proposée par Eva Darlan.
Ah, vous m'avez demandé quel était mon film préféré, ma chère Charline, chérie. Mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas, ou plutôt j'en ai trop. Ouais. Le cinéma a ciselé ma vie, mes choix. L'art est formateur, vous le savez tous. Il est porteur de vocation, de changement, d'évolution. Et il peut aussi laisser des cicatrices. La première fois que je suis allée au cinéma, c'était pour voir La Terre des Pharaons. Un film épique avec Jack Hawkins et John Collins. C'était pas elle, le pharaon. Ni la momie. La Terre des Pharaons a réellement changé ma vie, mais pour toujours. Parce que à la mort du dieu vivant, toute sa famille, sa femme, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses esclaves, ses animaux, tous entrent dans la pyramide avec lui pour y mourir, emmurés, vivants et heureux. Mourir de faim et de soif selon la loi Leonetti, qui a dû voir le film lui aussi. Pour accéder au tombeau suprême, tous empruntent des couloirs atrocement exigus, des corridors atrocement aveugles, des boyaux atrocement minuscules, où il faut quasiment ramper pour avancer. Et quand, enfin arrivés dans cette pièce aveugle et étouffante, ils se font emmurer vivants. Là, comment dire ? J'ai été atteinte, j'ai été submergée par une claustrophobie violente et durable qui ne m'a plus jamais quittée. Et je passe sur la crise d'asthme. Donc j'ai eu beau grandir et voyager jusqu'aux sources de ma terreur en Égypte. Le jour où je suis arrivée au pied des pyramides, je suis restée pétrifiée à l'extérieur avec la détermination de mourir à l'air libre plutôt que me risquer dans ces boyaux mortifères. Et depuis, claustro un jour, claustro toujours. Après cet impressionnant début, je suis retournée à des films plus adaptés à mon âge. J'ai vu Bambi et Blanche-Neige. Salaud de chasseur ! Ça fait du bien. Salaud de chasseur ! Ce qui explique que des années plus tard, par respect pour la gente animale et en mémoire de la maman de Bambi, salaud ! J'ai pris ma carte du parti animaliste. Plus tard, j'ai pleuré devant Elephant Man et à l'issue de la projection, j'ai couru me faire ma première chirurgie esthétique. La grande vadrouille m'a appris à tourner autour d'une table, à cheval sur une chaise, en chantant d'entraînants chants tyroliens. L'aveu de Costa Gavras m'a ouvert les yeux sur les dictatures. J'ai giflé mon père en même temps que Malcolm McDowell giflait le sien dans If. J'ai vu Coppola me demander, pardon, ce que je préférais comme fin pour Apocalypse Now. Mais je lui ai donné mon avis, qu'il a écouté. Bon, on était 300 dans la salle, mais quand même. 1917 m'a ébloui par sa maestria et Tu ne tueras point m'a réconcilié avec les croyants. Non, enfin, du moins avec celui-là, quoi. Par contre, Le Monde, selon Garpe, m'a appris à ne rendre aucun hommage appuyé à un chauffeur pendant qu'il conduisait. Sous peine qu'il se retrouve en cas d'accident privé de cet attribut qui rend les hommes si fiers.
Quant au célèbre film porno Gorge profonde, qu'on allait voir en famille le nouvel Obs sous le bras, je ne vous dirai jamais ce qu'il a changé dans ma vie. Non, ça ne vous regarde pas. Voilà, comme vous voyez, chère Charline Chéri, le cinéma m'a éduquée. L'art est ce qui relie les êtres entre eux et peut vraiment les transformer. Il est essentiel, 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 contrairement à ce que certains affirment. Et s'il advient qu'on me confine, je ris, je m'échappe en regardant tous les films du monde. Ils m'ouvrent l'esprit et le cœur sur des vies et des pensées différentes des miennes. Et j'ai accès au monde entier. Le cinéma n'a pas de frontières. Il vole des uns vers les autres. Comme vous le voyez, ma chère Charline, je n'ai pas un film préféré, mais j'ai un cinéma préféré, le cinéma tout entier.
Vive le cinéma !
Merci Eva Darlan Chéri.
Salut chasseur.
Pour ce partage, Eva Darlan, merci, qui est en tournée de signature pour son livre Les bruits du cœur à Épinal, à Houlgate, à Fécamp ou à Roquebrune. Merci Eva. Alors un petit dessin avant de se quitter, parce que maintenant qu'on connaît le candidat Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot, il y a une dynamique qui est lancée à gauche pour la santé. Moi non plus. Le Huffington Post a d'ailleurs publié un sondage où les sympathisants de gauche disent qu'ils souhaitent une gauche unie, mais ils ne savent pas derrière qui. Pour nous aider à s'y retrouver, crée une œuvre d'art contemporain, dessine l'état de la gauche. Merci à tous.
Ah oui, ouais,
les amis, merci Marina Chiche, Laëlia Véron, Hippolyte Girardot, Juliette Arnaud, merci Alex Vizorek, Guillaume Meurice et merci Eva Darlan.
Vous m'avez fait un plaisir dingue.
Mais c'est vous, merci beaucoup.
Vous.
Je vous dis à demain, nous recevrons Denitsa Ikonomova, c'est la danseuse star de Danse avec les Stars, à tel point qu'elle est passée jurée, ce qui est très intimidant.
Je viens donc vous demander votre accordance, c'est-à-dire de m'accordifier toutes les danses.